France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série sur la pensée libérale, ce matin, la mouvance dite libertarienne, toujours plus séduisante, semble-t-il. Un point sur le vocabulaire. Ce qu'on appelle le libéralisme classique, c'est une pensée qui veut limiter le pouvoir de l'État. Et c'est une pensée traversée de débats, nous l'avons vu. Cependant, à partir du XXe siècle aux États-Unis, le mot anglais « liberal » a fini par désigner les libéraux les plus enclins à penser malgré tout un rôle des pouvoirs publics pour plus de justice sociale. Bref, une position plus à gauche que celle des libéraux traditionnels qui ont été désignés de plus en plus par le mot « conservative ». Ce qui brouille les cartes pour nous, car tout cela ne recouvre pas les mots français « libéral » et « conservateur ». De plus, en réaction souvent à ces nouveaux libéraux à l'américaine, figure de gauche, certains libéraux très méfiants envers l'État ont refusé l'appellation de « conservative » et ont plutôt revendiqué la fibre libérale authentique. Cela a donné naissance au mot « libertarien ». De fait, les libertariens américains ne sont pas des conservateurs américains, en tout cas pas au départ. Plusieurs ont défendu des libertés, comme celle d'avorter, odieuse aux conservateurs, et ils affirment souvent une utopie, une sensibilité anarchiste qui les fait aspirer à autre chose, à un autre monde que celui dans lequel les conservateurs se sentent bien. Et puis tout s'est encore compliqué, car malgré tout, on finit par apparaître des libertariens conservateurs. Le président argentin Javier Milei, par exemple, peut-être à vérifier, Elon Musk et Donald Trump, nous allons en parler. Être un libertarien aujourd'hui, au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Bonjour Alain Laurent.
Bonjour.
Vous êtes prof de philo, vous êtes un des meilleurs spécialistes français du libéralisme. Vous dirigez aux belles lettres la collection Bibliothèque classique de la liberté, dans laquelle vous avez notamment publié un gros livre, coécrit avec Vincent Valentin, intitulé Les penseurs libéraux. La mouvance libertarienne américaine, Alain Laurent, n'a pas de secret pour vous. Et bonjour Mathilde Berger-Perrin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, essayiste, une des meilleures spécialistes en France de l'œuvre de Ayn Rand. Alors, qui est-elle ? Aux États-Unis, tout le monde sait qui c'est. Elle a écrit en 1957 un roman best-seller, Atlas Shrugged, qui a été traduit en français La Grève. Elle a disparu en 1982, mais en France, on la connaît très mal. Ce roman raconte comment des entrepreneurs créatifs, pleins de vie, empêchés par des règlements étatiques absurdes, décident un jour de cesser le travail et même de disparaître. On rattache en général Ayn Rand à la mouvance libertarienne qui est donc notre sujet de ce matin.
Le mieux, c'est de commencer par l'Argentine, puisqu'il y a un libertarien au pouvoir depuis plus d'un an. Je vous propose tout d'abord de nous présenter Javier Milei, qui est un personnage, comment dirons-nous, haut en couleur.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, il est d'abord l'émergent d'une situation propre à l'Argentine, avec un déclin économique qui a déjà plusieurs décennies, même si ça s'est aggravé au cours des 10 dernières années, avec une croissance nulle du PIB par habitant, par exemple. Il est l'émergent aussi de la pandémie, parce que les politiques de confinement, etc., ont donné justement de la place à ces discours parfois anti-vaccins et contre l'enfermement pour la liberté. Et lui-même, commentateur à la télévision au cours des dernières années, c'était quelque chose qui le rapproche un petit peu de Trump. Par exemple, c'était déjà quelqu'un de connu par le grand public, notamment par ses commentaires un peu excessifs et ses colères, il piquait des colères et critiquant tout le monde avec des mots très grossiers. Et avec cette approche justement libertarienne, l'idée que justement c'est la liberté qui est la valeur fondamentale, d'ailleurs par rapport à d'autres expressions qui sont aussi d'extrême droite comme lui, tels que Trump ou Bolsonaro, il y a une différence intéressante à souligner. Trump, c'est America first again, c'est des trucs nationalistes importants. Pour lui, c'est vive la liberté, bordel. Enfin, c'est la façon de traduire un petit peu. C'est-à-dire que la valeur suprême, c'est la liberté.
The chainsaw for bureaucracy.
C'est la tronçonneuse pour la bureaucratie.
Chainsaw.
La tronçonneuse.
La
Alors, vous venez d'entendre au micro de Guillaume Erner dans les matins de France Culture du 14 décembre dernier, Carlos Kenan, économiste à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, pardon si j'écorche son nom, qui évoque la sensibilité idéologique de Javier Milei, libertarienne semble-t-il, en tout cas il se revendique comme tel, Milei, et il a offert, deuxième son que vous entendiez, le 20 janvier 2025 à Elon Musk sur une grande scène avec de la musique, une tronçonneuse, pour évidemment tailler dans les dépenses de l'État. Et c'était la voix de notre réalisateur, Nicolas Berger, qui faisait donc, je ne sais pas si c'est Milei ou Musk, mais il le faisait très bien. Alain Laurent, Milei est-il vraiment libertarien comme il l'affirme? Et après, vous me direz ce que vous en pensez pour Musk.
Alors, pour ce qui est de Milei, au maximum, il serait un libertarien, comment dire, à temps partiel. Parce que, il ne faut pas oublier qu'il était un admirateur du leader populiste brésilien Bolsonaro, qui est certainement pas un libertarien. Mais là, il y a quelqu'un qui est opposé, par exemple, à la liberté de l'avortement, ce qui est très peu libertarien. Donc, je crains qu'il soit relativement incohérent et qu'il ne soit libertarien qu'en ce qui concerne l'économie, les dépenses publiques, la bureaucratie. Pour le reste, et c'est aussi quelqu'un qui s'est également pris de passion pour Poutine, dont je ne sache pas qu'il soit libertarien reconnu comme tel. Donc il y a vraiment un gros problème, et c'est un problème spécifiquement français. Je vous cite une anecdote. Quand on a commencé à la fin de l'année dernière à parler de Milei et puis de Musk, oui, une chroniqueuse politique réputée sur une chaîne info que je ne nommerai pas, donc il y a été question de libertarien, dit « Eh bien, je me suis renseigné, c'est-à-dire qu'elle ignorait tout des libertariens. » Alors, comment peut-on être chroniqueur politique en ignorant tout des libertariens? Alors, le peu qu'elle avait recueilli, d'ailleurs, montrait bien qu'il y a de lourds malentendus sur la qualification. Oui.
Bon, elle s'est renseignée, je ne sais pas qui c'était, mais c'est déjà quand même la moindre des choses. Et nous attendons effectivement de cette émission que le courant libertarien, qui est parfois connu, alors ici en philo, en pensée politique, on voit à peu près ce que c'est, mais la vérité, c'est que souvent quand on s'approche de ce courant, c'est bien plus complexe qu'on ne le croit. Alors on va reparler de Musk et de Trump, mais j'aimerais votre avis à vous, s'il vous plaît, Mathilde Berger-Perrin. Bon, vous travaillez surtout sur Ayn Rand, dont nous parlerons. Elle fait partie de la mouvance libertarienne. Quand vous voyez un Javier Milei et un Elon Musk qui finalement, sans le dire, lui, semble malgré tout se sentir proche de cette mouvance, elle est un petit peu utilisée politiquement maintenant au pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Alors, donc, je suis assez d'accord avec ce que dit Alain Laurent, dans le sens où c'est des libertariens à temps partiel, parce que, en effet, la particularité du mouvement libertarien, en tout cas dans comment il est né, c'est une forme de mariage très peu connue en France, en effet, qui est une sorte de grande liberté morale sur les mœurs, c'est-à-dire qu'il y a une très très grande tolérance sur comment les gens vivent et comment est-ce qu'ils comptent mener leur vie.
Y compris droit à l'avortement, pour
exactement,
un sujet sensible
c'est
de l'autre côté de l'Atlantique.
Exactement, et c'est pour ça que, pour moi, Milei est écarté, en fait, de la catégorie libertarien. En revanche, là où il rentre parfaitement dedans, c'est que, oui, les libertariens sont des gens qui réclament un état minimal, voire pas d'état du tout. Et que quand on décide de mener un pays en coupant dans la bureaucratie, on est en effet dans une démarche parfaitement libertarienne. Et pour Musk, là, on va être sur un personnage un petit peu plus randien, en effet, puisqu'on a un...
Randien, au sens de Ayn Rand.
Au sens de Ayn Rand. Parce qu'on a un entrepreneur au départ, avec quelqu'un qui avoue aussi un culte à la rationalité, qui est quelque chose qui va être partagé chez beaucoup de libertariens, mais surtout par Ayn Rand. Et là où c'est un peu la limite de l'exercice, c'est que à la fois avec le Dodge, aux États-Unis, c'est quelqu'un qui veut couper court aussi aux dépenses.
Expliquez, Dodge. Pardon, je vous suis obligée. Pour beaucoup de gens ne connaissent pas tout cela, et nous, justement, nous aimerions faire connaître mieux ces choses.
Donc, Elon Musk a été nommé à la tête du Dodge, qui s'appelle Department of Government Efficiency aux États-Unis, oui. Et donc il va en fait opérer plus ou moins le même rôle que ce que fait Milei maintenant, c'est-à-dire couper dans les dépenses de l'État, supprimer des institutions, des subventions publiques, etc. Donc là où c'est la limite, c'est que normalement, les libertariens, entre l'entrepreneur et l'État, il n'y a pas de lien, voire s'il y a une forme de perméabilité, imperméabilité totale. Et là, on va nommer un entrepreneur pour couper dans les dépenses publiques. Donc, c'est deux mondes qui se rencontrent et qui, chez les libertariens, ne devraient pas se rencontrer. Donc, le personnage de Musk est, pour moi, peut déjà être un peu plus caractérisé de libertarien que Milei.
Vous êtes d'accord, Alain Laurent ?
Pas tellement, parce que moi, je retiens ce qui est connu de tous maintenant en France, c'est l'appel de Musk à voter pour l'AFD, qui est un mouvement d'extrême droite à la fois néo-stalinien et néo-nazi en Allemagne. Comment peut-on être libertarien en appelant à voter pour de tels gens ? Et là, on retrouve l'incohérence peut-être moins de Musk lui-même que celui des commentateurs. Tout à l'heure, j'entendais aussi dire que les libertariens, c'était l'extrême droite. Ce n'est pas du tout l'extrême droite. Il y a aussi des libertariens de gauche. Donc, vous voyez tous les malentendus qui s'empilent les uns sur les autres à propos du libertarianisme.
Est-ce que le problème historique actuel, c'est que les libertariens prenez la liberté individuelle, y compris dans l'entreprise, et c'est vrai qu'il y a une vraie figure héroïque de l'entrepreneur, du self-made man à l'américaine, n'aime pas que l'État lui mette des bâtons dans les roues, n'aime pas d'une façon générale que l'État intervienne trop, ce sont des minarchistes, je crois que c'est le mot que vous employez souvent, Alain Laurent. Après, il y a des sensibilités à l'intérieur, il y a toujours des débats, bien sûr, plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Mais en tout cas, là, le problème, c'est qu'ils sont devenus des conservateurs. Alors que, comme j'ai tenté de le dire au début de l'émission, les libertariens n'étaient pas des conservateurs. C'était même une notion qui ne s'articulait pas bien avec le conservatisme, ni moral, ni même économique.
Absolument. Ça concerne aussi, d'ailleurs, ce dont on n'a pas parlé, les classical liberals, c'est-à-dire ceux des libéraux américains qui refusent le glissement à gauche, qui ne sont pas d'ailleurs pour autant des libertariens. Exemple, Hayek, Mises, Friedman. Ça fait tout de même du beau monde. Et il y a un texte de Hayek qui est bien connu, qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas conservateur ?» Donc, il y a une frontière entre les classical liberals et le conservatisme, et encore plus entre les libertariens et le conservatisme. Ayn Rand, dont on parlait tout à l'heure, haïssait le conservatisme. Elle aussi a écrit un tas de choses là-dessus. Donc, il ne faut pas qu'il y ait le moins de malentendu de ce point de vue-là. Les libertariens ne font pas du tout partie de la mouvance conservatrice et la détestent en général.
Alors, on va justement préciser cela, pour comprendre aussi ce qui s'est passé. Comment ça a pu rejoindre une sensibilité nationaliste et conservatrice. Alors, j'ai appris par nos invités d'hier, nous avons hier fait vivre le débat entre libéraux, Friedrich Hayek d'un côté, John Rawls de l'autre. Et nos invités, enfin en off, m'ont dit, mais finalement, le mot libertarien, il a été utilisé un jour par un économiste autrichien, mort en 1983, qui s'appelle Fritz Machlup, je ne sais absolument pas comment ça se prononce.
Machlup,
d'accord. Qui voulait rendre un hommage, je crois, à Hayek. Et comme il y a des libéraux qui étaient comme Rawls, finalement, qui apparaissaient plus à gauche, un petit peu plus favorables à l'intervention des pouvoirs publics, comme pour sauver la fibre libérale, on a inventé un autre mot, libertarien. Est-ce que ça, c'est exact, ça, Alain Laurent ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous y faisiez vous-même allusion tout à l'heure. Le mot libertarian existait déjà dans la première moitié du XXe siècle aux États-Unis, pratiquement avec sa signification de libertaire. Mais il y a eu l'événement dont on parle, c'est-à-dire le glissement à gauche du terme liberal. À ce moment-là, ils se sont mis... Alors, classical liberal, c'est un peu lourd à manipuler, surtout dans... qu'on intervient en public, et par conséquent, c'est le terme libertarian qui s'est séparé à ce moment-là, donc au début des années 1940, de son voisinage avec libertaire, ce qu'il ne faut surtout pas confondre. Il y a le libertarisme et le libertarianisme.
Alors, quelle est la différence ?
Alors, la différence, elle touche à un point doctrinal fort, qui les sépare totalement, c'est le caractère capital, si l'on peut dire, de la propriété et du droit de propriété privée. les libertaires sont au fond des collectivistes qui refusent le droit de propriété privée, alors que pour les libertariens, toute sensibilité confondue, c'est-à-dire aussi bien les anarcho-capitalistes que les minarchistes, la propriété est quelque chose de central. La distinction entre les deux, c'est que pour les partisans de l'État minimal, il n'y a pas que la propriété privée qui compte, alors que pour les anarcho-capitalistes, tout repose là-dessus. C'est même ce qui leur permet de définir de façon très étrange la liberté d'expression. Par exemple, là c'est un sujet tout à fait actuel.
Oui.
Pour les anarcho-capitalistes, en particulier par exemple pour Rothbard, on a tout à fait le droit, au nom de la liberté d'expression, de diffamer. Alors pour quelle raison? Parce qu'un individu ne serait pas propriétaire de sa réputation. Donc l'argument évidemment peut se défaire, mais vous voyez à quel point il y a des sujets doctrinaux qui les séparent totalement. Ce ne serait pas le cas par exemple pour quelqu'un comme Robert Nozick.
Alors oui, c'est intéressant parce que derrière il y a un débat sur est-ce qu'on peut rapporter tout un tas de sujets au problème de la propriété. Alors je voudrais que vous précisiez, quand vous dites que ce n'est pas la même chose que la tradition libertaire, il me semble que vous faites référence à la tradition anarchiste plus classique ou plus connue. Mm-hmm. Donc c'est qui? C'est Proudhon, c'est Bakounine. Essayez de nous dire... Effectivement, il y a l'idée d'une collectivisation de la propriété, pas forcément par un État, et même pas du tout, plutôt par, de manière co-gestionnaire. Et donc ça, ce n'est pas un idéal pour les libertariens. Quel est l'idéal pour les libertariens? Alors quel est le monde utopique, puisqu'ils en revendiquent d'une utopie, des libertariens?
Alors la valeur cardinale, c'est évidemment la liberté et tous ses requis. Cela dit, après, ça se décline de façon différente, encore une fois, parce que ce qui est central, c'est de bien comprendre que cette mouvance libertarienne, très vite, elle s'est séparée en deux sous-mouvances, les anarcho-capitalistes et puis les partisans de l'État minimal, c'est-à-dire les minarchistes. Et comment mettons en œuvre la priorité absolue, la priorité lexicale de la liberté individuelle? C'est justement le caractère de le problème de savoir si, oui ou non, des pouvoirs publics, une puissance publique doit intervenir pour le faire. Par exemple, pour Ayn Rand, le problème ne se pose pas. Il y a bien nécessité d'un gouvernement limité, mais qui protégerait la liberté, la propriété, qui combattrait la fraude, la violence, etc.
Donc, pas un minimum pour la sécurité.
Oui.
Et pour faire appliquer les contrats et les décisions de justice.
Absolument. Donc tout ça paraît indispensable pour, dont on les appelait minarchistes, aussi bien pour Nozick que pour Rand, et puis un certain nombre d'autres. Oui. Ce qui leur vaut d'être qualifiés d'étatistes et de collectivistes.
Oui, bien sûr, par les autres, évidemment.
Par les autres libertariens.
Mais les autres, quel est le monde d'un anarcho-capitaliste? La police est privée, il y a plein de polices par quartier ou par association, idem pour les prisons, pour toutes les fonctions actuelles de l'État.
Oui, tout doit être privé. Autrement dit, il y a zéro État, il n'y a pas la moindre trace d'État ou de pouvoir public. Tout, non seulement doit être privé, mais le corollaire, c'est tout doit être volontaire. Tout doit procéder d'une décision volontaire de l'individu et des individus. Certains pouvant préférer le faire à titre purement personnel et d'autres en s'associant. C'est ce qui peut donner d'ailleurs naissance à cette sorte d'utopie que sont les territoires libertariens libérés, parfois à bord d'îles flottantes. Et en effet, ils se réorganisent, mais à la manière d'un club dont on peut refuser l'accès à n'importe qui. Et ça, encore une fois, ça participe de la logique de la propriété privée et de la décision exclusivement volontaire des individus.
D'accord, mais il y a aussi la propriété collective. Si, par exemple, il y a tout un quartier du Bronx qui décide d'avoir sa propre police et vigile, etc., ils vont posséder ensemble, contractuellement, quelque chose.
Oui, mais ce n'est pas collectif de la même manière. C'est comme d'ailleurs dans une copropriété en France.
D'accord.
Les propriétaires ne cessent pas d'être propriétaires de leur appartement, pour autant qu'il y ait en effet quelque chose de collectif avec un syndic, etc. C'est la même chose pour ce qu'il en est de ces territoires libertariens.
Oui. Alors on va revenir, hein, parce que cette utopie, puisqu'ils emploient le mot libertarienne, c'est intéressant de réfléchir à ce qu'il y a dedans vraiment pour un monde futur. Est-ce naïf? Est-ce pertinent sur plein de sujets? Mais quand même, j'ai envie qu'on aille vers Ayn Rand, cette romancière philosophe d'origine russe. Elle a fui les soviétiques. Elle est née en 1905, là-bas, et puis elle est arrivée au courant des années 1920. C'est bien ça, Mathilde Berger-Perrin. Elle a écrit La Grève, qui a donc un autre nom très difficile à prononcer en anglais, un roman où des producteurs font grève, en quelque sorte, contre les absurdités des règlements exigés par l'État. Et puis, elle s'est beaucoup exprimée. Elle a revendiqué, en effet, quelque chose comme un libertarisme. Mais il fallait quand même un minimum d'État. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit d'une archive de 1959. Non, pardon. De 1959.
By the constitutional process.
Selon le processus constitutionnel tel que nous l'avons mis en place, les citoyens élisent des représentants. Mais les pouvoirs de ces représentants, les pouvoirs du gouvernement, sont strictement limités. Ils n'auront pas le droit d'utiliser la force ou la contrainte contre un citoyen, sauf un criminel. Je suis opposé à toute forme de contrôle. Je suis pour un laissez-faire absolu, une économie libre et non réglementée. Je vais le dire brièvement, je suis pour la séparation de l'État et de l'économie. Tout comme nous avons eu la séparation de l'État et de l'Église, qui a conduit à une coexistence pacifique entre différentes religions, après une période de guerre de religion, la même chose s'applique à l'économie. Si vous séparez le gouvernement de l'économie, si vous ne réglementez pas la production et le commerce, vous aurez une coopération pacifique, une harmonie et une justice entre les hommes.
Si on sépare l'État de l'économie, comment peut-on se mettre tous d'accord sur la façon de financer l'État ? Je vous écoute, Mathilde Berger-Perrin.
Alors, là-dessus, Ayn Rand a plusieurs propositions, mais ne tranche pas vraiment. Pourquoi ? Parce que Ayn Rand, c'est une philosophe politique, mais ce n'est pas une politicienne. Ce n'est pas quelqu'un qui a prescrit un moyen de faire. Parmi les solutions qu'elle a évoquées, mais sans jamais vraiment pencher pour l'une ou pour l'autre, il y avait cette idée que, en fait, les citoyens paieraient naturellement pour des services dont ils ont besoin, comme ils paieraient pour la souscription à une assurance, par exemple. Donc le modèle assurantiel, c'est quelque chose dont elle a déjà parlé. Elle a aussi éventuellement parlé d'un modèle de loterie, c'est-à-dire que les gens finalement se retrouveraient à contribuer à l'État, mais de manière, les mots viennent en anglais, je suis désolée.
La lumière en anglais.
Randomly, donc ça
au hasard.
Il serait en fait sélectionné et puis voilà. Mais ce qui est intéressant de comprendre chez Ayn Rand, et c'est peut-être ce qui va la distinguer des différentes familles des libertariens, c'est que son modèle politique avec un État minimal, c'est pas une volonté d'instaurer un État minimal parce que ça serait mieux pour tout le monde. C'est qu'il faut adopter son code moral d'abord, qui s'appelle l'objectivisme, et le modèle politique qui respecte le mieux ce qu'elle estime être la nature humaine, la nature de l'homme, et donc sa voie vers le bonheur. C'est un État où l'économie est complètement libre et l'agent étatique, en fait, ne serait là que pour protéger la liberté des individus et de créer et de produire ensemble.
On est d'accord que puisqu'il ne faut forcer personne, s'il y a des individus qui ne sont pas d'accord avec ce que, mettons, une majorité souhaite en termes d'État minimal, ils pourraient faire sécession, si j'ose dire, et avoir leur propre État à eux. Et à la fin, on se retrouverait dans un monde qui ressemble quand même beaucoup à celui des anarcho-capitalistes, c'est-à-dire chacun sa justice, sa police, puisqu'on ne peut forcer personne. La majorité ne peut jamais forcer une minorité. Il y aura une pluralité de petits États privés.
Alors c'est pour ça que je pense qu'Ayn Rand n'est pas forcément la meilleure auteure pour imaginer un monde comme ça, puisque ce qu'elle stipule, c'est que si tout le monde adopte le même code moral qui est l'objectivisme chez elle, donc sa philosophie, on ne serait pas tenté de faire ça, en fait. On ne serait pas tenté d'avoir des mini-sociétés qui fonctionneraient selon le bon vouloir très local. Et donc ça c'est une première chose. Et par exemple, je sais que dans La Grève, il y a une utopie libertarienne à l'intérieur de son livre, où justement les cerveaux de ce monde, les producteurs, les artistes, les créateurs, se retirent du monde, ils retirent en fait leur production intellectuelle du monde pour priver le reste de la société de ce qu'il a fait tourner, c'est-à-dire oui. les cerveaux. Et ils vont se retirer dans une sorte de petite utopie libertarienne. Et on a déjà confronté Ayn Rand à lui dire, mais enfin, vous voyez bien, finalement, c'est ce que c'est votre utopie libertarienne, elle existe. Vous avez fait un modèle prescriptif de à quoi ça ressemblerait une société libertarienne. Et elle répond, mais ça n'est pas une société. C'est un petit État privé, c'est une société privée qui décide de vivre entre eux. Et même entre eux, ils ont besoin d'un gouvernement de loi objective. Alors, il n'y a pas un vrai gouvernement, mais il y a quand même un juriste, il y a quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, il y a quand même des lois objectives qui régissent ce tout petit endroit. Et elle disait, vous imaginez qu'à l'échelle de la société, même si tout le monde adoptait le même code moral, on aurait quand même besoin de lois objectives qui soient les mêmes pour tout le monde.
Donc un peu de archi, puisqu'on parle d'anarchie chez les anarcho-capitalistes, ouais. quand même, à l'instar de Nozick, dont nous allons encore reparler Alain Laurent, Ayn Rand semble dire qu'il faut un peu de archi, un peu de pouvoir, qu'on peut vite défaire, qui ne doit opprimer personne, c'est ça ?
Surtout, je me permets juste...
Je vous en prie.
Ayn Rand est contre un modèle d'État concurrentiel. Ça ne l'intéresse pas qu'on puisse faire plein de petits États, plein de petits États où chacun paierait en fonction de ce qu'il veut, où il y aurait, des États dans lesquels, typiquement ce qui se passe aujourd'hui, des États dans lesquels il y a un droit à l'avortement, des États dans lesquels il n'y a pas de droit à l'avortement. Ça n'est pas le modèle. Les États entre eux ne peuvent pas être... dans un seul État, il ne peut pas y avoir des modèles concurrentiels de politique.
À l'intérieur du même État.
Il ne
peut pas y avoir des petits pouvoirs différents selon les quartiers, les envies, les classes sociales. Il ne faudrait pas aller vers là. Mais évidemment, puisqu'on ne peut contraindre personne, la question se pose quand même.
La question se pose en effet. Mais je vous laisse...
Alain Laurent, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y aura vraiment la possibilité... Pour Nozick aussi, d'ailleurs, Robert Nozick, c'est une question qui se pose, d'avoir un seul État minimal sur lequel tout le monde sera d'accord, très très peu interventionniste, ou bien les conflits de la nature humaine, il y a des conflits. Il y aura toujours des gens pour vouloir un État un peu plus important ici, un peu encore moins important là-bas. Finalement, il y aura une polyarchie, plein de petites choses de pouvoir et d'État différentes dans le même pays.
Oui, mais ça souligne, pour compliquer déjà encore un peu plus les choses, faut tout de même rappeler que Ayn Rand ne voulait absolument pas être caractérisée comme libertarienne. Haïssait les libertariens.
Je croyais qu'elle n'aimait pas surtout les plus extrêmes. Réexpliquez-moi tout, je n'ai rien compris.
Oui, parce que à l'époque, par exemple, au moment de la guerre du Vietnam et dans les années qui ont suivi, les libertariens lui apparaissaient, c'est le mot qu'elle employait, comme des zombies complètement irresponsables.
Des hippies, quoi, c'est ça ?
Oui, des hippies, des gens qui n'avaient aucune révérence pour la rationalité, alors elle qui défend l'objectivisme. Donc, tout cet aspect anarchique, non seulement elle ne le partage pas, mais elle le réprouve. Elle n'a jamais voulu être confondue avec eux. Alors, par ailleurs, ce que vous faisiez, à juste titre souligner, ça souligne peut-être le caractère extrêmement utopique au fond du paradigme libertarien. C'est sûr qu'il y aura toujours des gens en désaccord avec tout ça. Ici, il faut se pencher également vers ce qu'a apporté au débat Robert Nozick en 1974 avec son ouvrage.
État, anarchie et utopie, oui. 1974.
Ou alors l'un des mots importants est tout de même utopie. Oui. Que peut valoir, comment mettre en œuvre l'utopie libertarienne, sous-entendue au sens anarcho-capitaliste. Et il y a un raisonnement célèbre de Nozick qui montre que dès lors qu'il y a concurrence entre des utopies privées, eh bien, la plus performante va vite l'emporter et par conséquent, ils devront convenir ensemble d'une sorte de système qui les met en relation. Mais à partir du moment où il y a un système qui met en relation des utopies privées, ça veut dire qu'on est en train de recréer l'État. Et on a eu beaucoup de mal à le contredire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était tout à fait opportun à l'époque. Nozick répond à John Rawls et il veut défendre d'une certaine manière le libéralisme dans sa version à la fois classique et un peu radicalisée de ce point de vue-là. Oui. Mais à chaque fois, lui, il se fait fort de montrer qu'on ne peut pas échapper à, au fait qu'il y ait, il doit y avoir une puissance publique commune. Et on revient à ce qu'on disait précédemment, en effet, dans ce cadre-là, il est impossible qu'il y ait des débordements.
Ils sont vraiment forts dans la critique. C'est vrai qu'une fois qu'on regarde ce qu'ils proposent plus positivement, là, se posent des questions. Mais dans la critique, par exemple, de Rawls, ils sont même devenus très fameux. Est-ce que vous pourriez raconter, en quelques mots, s'il vous plaît, Alain Laurent, la manière dont Nozick fait jouer l'exemple d'un grand joueur de basket, je crois, Wilt Chamberlain. Et il dit, si on est dans le système de John Rawls, qui veut toujours qu'on fasse attention dans la société aux plus défavorisés, donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose comme un État ou des pouvoirs publics qui fassent attention aux plus défavorisés, qui redistribuent assez régulièrement des richesses aux plus défavorisés. À ce moment-là, si Wilt Chamberlain, en une année, juste parce qu'il est très, très, très starisé, gagne 3 millions de dollars par des billets achetés pour ses matchs, on lui ponctionnera forcément un morceau, on le taxera pour le plus défavorisé. Et Nozick dit que c'est insupportable.
Il dit d'autant plus que c'est insupportable dans sa perspective que les joueurs en question n'ont volé ce qu'ils reçoivent à personne. Mais c'est comme les grands footballeurs actuellement en France. Personne n'a contraint d'aller assister à leur match et ce qu'ils reçoivent, ben, ils ne l'ont dérobé à personne. Alors que c'est là la critique la plus célèbre du capitalisme. Et par conséquent, l'État serait contraint de lui-même de voler quelque chose à quelqu'un qui ne l'a volé à personne. J'ajouterais tout de même, à titre personnel, un petit commentaire là-dessus. Ça souligne tout de même la difficulté des libertariens, même des minarchistes, avec la protection des plus, je dirais, involontairement défavorisés. Est-ce que, lorsqu'on défend l'État minimal, il ne faudrait pas comprendre aussi qu'il faut qu'il y ait un État-providence minimal ? C'est ça, et c'est une question à laquelle les libertariens, même minarchistes, au fond, sont fort mal placés. Même dans l'œuvre d'Ayn Rand, on n'a pas de réponse là-dessus, alors voilà, que c'est un problème crucial.
Dès que c'est la proposition concrète et positive, les libertariens, ça devient plus difficile d'établir de manière sûre et certaine une politique libertarienne. Vous êtes d'accord, Mathilde Berger-Perrin?
J'allais commenter justement les grands absents des livres d'Ayn Rand sont les enfants, les personnes handicapées, les personnes défavorisées sans l'avoir choisi, on ne choisit pas d'être défavorisé, mais sans l'avoir provoqué en tout cas. Et donc oui, là, il y a une réponse. La réponse n'est pas... chez Ayn Rand, la réponse n'est pas prescriptive puisque c'est une romancière.
Elle déteste le sacrifice. C'est tout à fait frappant quand elle s'exprime, ou encore dans ses essais philosophiques, parce qu'il n'y a pas que le roman La Grève. Elle dit, je ne supporte pas l'idée, et ça nous renvoie à l'exemple de Wilt Chamberlain, le basketteur, si quelqu'un a eu du succès par lui-même, alors ils croient tous les deux que c'est par soi-même qu'on a le succès, quoi qu'on n'a pas de dette à l'égard de la société, ça c'est un vaste débat, ils le croient en tout cas, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de demander à quelqu'un de sacrifier une part du succès qu'il a eu, c'est ça ?
Oui, alors ça...
Pour redistribuer un peu.
Oui, ça fait partie de la philosophie objectiviste d'Ayn Rand, mais ce qu'elle estime être la nature humaine, en fait, dès le départ. C'est-à-dire que, selon elle, l'homme vient au monde désarmé. Et le seul moyen qu'il a pour survivre, c'est d'utiliser sa raison. Et avec sa raison, il va comprendre le monde, il va il va réussir à produire et l'un des buts de la vie de l'homme, c'est d'ailleurs le seul pour elle, c'est d'être heureux sur Terre. Et la manière d'être heureux pour elle, c'est de créer et de pouvoir bénéficier du produit de ses créations. Donc la productivité chez Ayn Rand et la capacité à jouir de ce dont on a produit, du fruit de ce qu'on a produit, c'est ce qui fait que l'homme est homme. Et que l'homme peut vivre sur Terre.
Et donc aider autrui, pour elle, c'est un sacrifice.
Et donc à partir du moment où vous avez un État qui vient confisquer une partie de ce fruit-là, en fait, il est déjà en train d'attaquer la nature des hommes. Il est déjà en train de les rendre demi-hommes. Et donc c'est pour ça que le sacrifice imposé, en tout cas, une puissance, à ce moment-là, elle sera contre. Mais Ayn Rand, est contre, de toute manière, ce qu'elle appelle l'amour sacrificiel. Et ça, c'est une vive critique qu'elle a à l'égard de toutes les religions, mais en particulier de la religion catholique, qui est l'idée que l'homme doit vivre pour ses frères, ou doit se sacrifier pour ses frères, ou que l'amour se transmette sans une forme... de bénéfices mutuels. Et donc, dans une relation amoureuse où il n'y a qu'une personne, par exemple, qui bénéficie de ça, donc ce serait une relation abusive, pour elle, c'est impossible. Mais elle l'étend à toute forme de relation. Donc c'est la même chose dans l'amitié, c'est la même chose dans les relations contractuelles que vous pouvez avoir au travail. En fait, l'amour, chez elle, est une forme de contrat.
Et il faut assumer l'égoïsme.
Et c'est une
valeur pour elle, morale.
C'est ça, c'est que l'égoïsme rationnel, tel qu'elle le théorise, en fait, permet une société la plus juste possible et la plus bénéfique à chacun des individus, puisqu'on s'attacherait librement en fonction non pas de gens parce que ce sont des hommes, sur la simple base que ce sont des hommes, mais parce qu'ils répondent à des valeurs que l'on estime moralement justes ou que l'on admire.
Bon, alors rassurez-moi. Libertarien, elle est méfiante à l'égard de ce mot, Ayn Rand, mais ce qu'elle n'aime pas, c'est les hippies version peace and love, libertaires, anarchistes, gauchos, qui quand même...
Pas du tout.
Mais libertarien au sens précis que nous venons de dire, l'étiquette colle assez bien quand même.
En fait, je me permets une petite catégorisation qui a été faite par un ami de Rothbard qui s'appelle Émile Franzi et qu'on trouve dans le livre de Sébastien Carré sur la sociologie des libertariens et qui explique qu'il y a 4 types de familles et c'est là où vous allez comprendre pourquoi Ayn Rand peut pas tout à fait souscrire au libertarianisme. C'est que il y a ce qu'on appelle selon lui les preppies, les rednecks et les hippies. Les prépis, ce sont des gens qui n'ont pas de problème à s'acoquiner avec le gouvernement. Donc ce serait par exemple, si vraiment on voulait aller sur la version libertarienne de Musk, c'est ça, ou un Milley. C'est-à-dire c'est des gens qui vont se servir du gouvernement pour faire passer des choses qui, ma foi, sont libérales, mais quand même toujours avec l'aide de l'État. Les rednecks, ce sont des gens qui vont être extrêmement conservateurs. Là, c'est des gens, morale est ultra conservatrice.
Ça ne l'intéresse pas.
C'est ce qu'on appelle aussi du paléolibertarianisme. Et là, c'est des gens qui défendent une morale vraiment conservatrice et par contre un État minimum ou parfois anarcho-capitaliste. Ça, à la limite, c'est pas tant le problème.
Alors, on en parle des anarcho-capitalistes, cette branche des libertariens ou peut-être cette ligne à côté des libertariens. Vous nous préciserez tout cela, Alain Laurent. C'est vraiment un sujet que vous connaissez très bien. Je vous propose d'écouter, c'est un enchaînement, Murray Rothbard, vous nous direz qui c'est, et David Friedman.
Quand il y a un boom économique, il est forcément suivi par une récession. C'est une conséquence du boom. Donc la meilleure chose à faire, c'est de s'en débarrasser rapidement. Et après, on est en situation de guérison. Autrement dit, laisser le marché faire ses ajustements rapidement pour revenir vite au plein emploi. Avant 1929, le gouvernement n'intervenait pas pendant les récessions. Par exemple, lors de la crise de 1921, le gouvernement n'a rien fait et elle était finie en 9 mois. À ce moment-là, Hoover s'est juré que s'il était président, il n'attendrait pas, il interviendrait tout de suite. Bien sûr, juste avant 1929, il est devenu président. Il y a eu le krach boursier, et il est intervenu rapidement et massivement. Et il a prolongé la crise pendant ses 4 années au pouvoir. Et Roosevelt a intensifié cette politique et prolongé la crise jusqu'à ce qu'il nous fasse entrer en guerre en 1941. Donc la position de l'école autrichienne est que, si vous êtes en période de boom, stoppez l'inflation, tout de suite, appuyez sur le bouton, et n'intervenez pas pendant la récession, pour qu'elle s'arrête rapidement. C'est la différence entre une opération chirurgicale, où vous coupez une tumeur comme ça, et une dépression chronique où vous êtes malade constamment, et de plus en plus malade. Vous pouvez développer l'anarcho-capitalisme en ligne. Si vous pensez aux interactions en ligne, il est très difficile de tirer une balle à travers une connexion Internet. Donc, dans un sens, même si vous pouvez escroquer les gens, vous ne pouvez pas vraiment utiliser la force contre eux. Et cela signifie que vous développez une société où l'équivalent de l'activité gouvernementale et des tribunaux sont des mécanismes privés pour régler les différends. Par exemple, lorsque vous achetez quelque chose, vous pouvez commenter le vendeur. Et plus tard, les acheteurs peuvent voir ces commentaires. C'est utiliser la réputation comme un moyen de substitution à la police pour se faire respecter. Et si vous achetez quelque chose de cher et que vous devez l'inspecter, il existe des mécanismes grâce auxquels on peut se le faire livrer par un intermédiaire. Et ce n'est qu'après l'avoir vérifié qu'on envoie l'argent au vendeur. Et si suffisamment d'activités humaines deviennent en ligne, si votre travail est effectué à distance, si vous faites la plupart de vos achats en ligne, vous vous retrouvez alors dans une situation où si le gouvernement du pays dans lequel vous habitez ne vous traite pas bien, vous pouvez simplement déménager très facilement.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Et au sein de notre série de cette semaine sur la pensée libérale, ce matin nous parlons de la mouvance libertarienne. Je suis en compagnie de Mathilde Berger-Perrin et d'Alain Laurent. Et nous venons d'entendre l'économiste Murray Rothbard ainsi que David Friedman, qui, je le souligne, est le fils de Milton Friedman. Ce sont deux figures de ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. Alors ce qui me frappe vraiment, Alain Laurent, dans ce qu'on a entendu, c'est que Rothbard a un rapport assez simple à la brutalité. Il ne faut pas que l'État intervienne dans les crises, tant pis s'il y en a qui morflent. Hein. Ce sera brutal, mais ce sera rapide. Et de l'autre côté, on a David Friedman qui dit « Mais la société que nous souhaitons, c'est une société extrêmement douce. On réglera tout par les commentaires sur Internet. » Donc on a d'un côté quelque chose d'assez brutal, assumé. De l'autre, un truc assez... doux, quoi. L'idée que l'anarcho-capitalisme, ce sera une société bien plus douce que l'actuelle.
Je crois que dans les deux cas, même si c'est contrasté, on a affaire à une vision tout à fait éthérée des choses. Mais alors, pour le comprendre, il faut tout à fait contextualiser l'affaire. La grande époque du libertarianisme, avant on n'en parlait pas du tout, aux États-Unis, c'est la décennie 1970-1980. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Deux choses qui ont scandalisé tous les esprits libéraux qui en sont venus à souhaiter des solutions radicales opposées. La première chose, c'est par exemple l'affirmative action, la discrimination positive. C'était une intervention autoritaire et raciste de l'État pour en effet avantager un certain nombre de personnes, fût-ce au prix d'ailleurs d'autres minorités. Chacun sait qu'aux États-Unis, la discrimination positive, l'affirmative action, a fini par désavantager tous les immigrés d'origine asiatique qui réussissaient, pour des raisons familiales générales, beaucoup mieux. Deuxièmement, il y avait la montée, presque au fond, impossible à contrer, du welfare state. Moi, j'ai fait un reportage à l'époque pour le magazine Le Point qui était en train d'apparaître chez les anarchistes américains. Qu'est-ce qui se passait à cause du welfare state ? Eh bien, on se mettait, je cite l'expression, « on welfare ». Se mettre « on welfare », c'était se mettre à la charge de l'État pour demeurer oisif et ne plus rien faire. C'est ça, d'ailleurs, qui a scandalisé, entre autres, Et si on ne tient pas compte de tout cette étatisation, cette sociale étatisation sous Lyndon Johnson des États-Unis entre 1960 et 1970, on ne comprend pas pourquoi, dès 1970, il y a eu les premiers ouvrages de philosophie libertarienne, et ça s'est achevé donc en 1974 avec Nozick, dont on parlait tout à l'heure, puis au tout début des années 80 avec Murray Rothbard. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que ce qu'ils avaient sous les yeux était tellement pour ces... J'allais dire, ces fanatiques de la liberté et ces ennemis de la contrainte étatique tellement horribles, en effet, qu'ils ont voulu souhaiter quelque chose qui rompe radicalement avec ce que ne faisaient pas à leurs yeux les classicoles libérales. Moi, j'ai connu des libertariens, surtout tendance anarcho-capitaliste, qui considéraient que Hayek était un collectiviste.
Un gauchiste, quoi.
Oui,
non, mais c'est très intéressant, l'état du débat.
Je vais citer son nom, Hermann Hoppe, est quelqu'un qui, en effet, a souvent qualifié Friedman, ne serait-ce que parce qu'il était partisan de l'impôt négatif, et pour eux, c'était vraiment l'horreur des horreurs. Donc, c'est dans un double contexte d'étatisation, de social étatisation presque radicale des États-Unis. Ça a existé sous Lyndon Johnson. Et deuxièmement, il y avait, en effet, toute cette horreur dans laquelle se plongeait la société américaine.
Je crois qu'il y a eu un débat assez vif entre Milton Friedman et Hayek. Le fils de Milton Friedman, David Friedman, qui est très très libertarien, en tout cas, même anarcho-capitaliste, d'une certaine façon, il relance le débat avec Hayek, que son père avait déjà lancé sur d'autres terrains économiques plus techniques. Mmh. On a l'impression aussi de règlement de compte, mais pas au mauvais sens du terme, au sens de poursuite d'un débat théorique typiquement américain. Et ça, ce n'est pas toujours très facile à comprendre en France.
Oui, ce qui montre que chez même les classico-libéraux, il y avait des nuances et ils partaient de la même problématique que les libertariens. Par exemple, un débat entre Friedman, père...
Milton.
Et puis Hayek, c'est surtout même la nécessité d'intervention de l'État, y compris sur le plan économique. Horreur pour Ayn Rand. Et Hayek, à plusieurs reprises, a fait, dès la route de la servitude d'ailleurs, il l'avait souligné,
1944,
on ne peut pas revenir au laisser-faire, et par conséquent, il y a parfois nécessité de l'intervention minimale de l'État, parce qu'il y a des défaillances du marché. Défaillances du free market pour des libertariens, là encore, c'est l'horreur absolue. Donc vous voyez, il ne faut jamais perdre tout ça de vue pour comprendre à quel point les libertariens, qu'ils soient anarcho-capitalistes ou ménagers, se sont sentis tenus d'inventer quelque chose d'autre, quitte à faire roue libre dans les utopies plus ou moins rationnelles.
Je ne contracte pas parce que je n'ai pas signé de contrat avec cette entreprise.
Vous êtes et vous appartenez à l'entreprise République Française Présidence, nous non. Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française Présidence. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Mais pourquoi vous dites que la République Française est une entreprise?
Ah ben parce que... Alors là, je vous propose de faire des recherches.
Ça paraît compliqué à comprendre alors qu'en fait, c'est tout simple.
C'est parce qu'il faut faire des recherches. Il faut faire vos recherches. Et pour mieux comprendre.
Quel a été le déclic pour vous
Le Covid.
Le déclic de tout ça? Ben c'est le Covid. J'ai été suspendue.
Et les restrictions de liberté. On a trouvé bizarre qu'il y avait cette atteinte à la liberté fondamentale de pouvoir respirer librement et de se déplacer librement. On a quand même marché sur la tête pendant le Covid.
Vous dites que vous ne contractez pas avec la République française, mais vous touchez le chômage, vous touchez des aides pour votre arrêt maladie. Donc
on
finalement...
a cotisé.
Ah non, mais on a cotisé pour.
Eh bien, la cotisation, c'est une forme de contrat, mais, non de contrat...
Mais c'était bien avant de découvrir mais ce qu'il y a.
Alors, avec qui, avec quoi vous ne contractez plus?
Au niveau des impôts.
Vous ne payez plus vos impôts?
On ne veut plus en payer. Alors, on payait avant, maintenant on ne veut plus en payer, donc on envoie des lettres comme quoi on ne veut plus rentrer dans le système.
Ça vous attire des ennuis, finalement, de contester à ce point?
Alors, ce n'est pas des ennuis, parce que, en fait, ça permet de révéler tout ce qui ne va pas, en fait. Tout ce qui est pratiqué, ce qui est illégal.
C'était un reportage de France 2, d'Envoyé spécial, le 6 juin 2024. Un dialogue avec un couple en mars 2024 dans le nord de la France, un couple qui refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie et à un certain nombre de contraintes incarnées, évidemment, imposées par l'État. Alain Laurent, j'ai l'impression que là, on touche quand même un argument, un problème, si vous voulez. David Friedman, anarcho-capitaliste, dit les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, dans un monde anarcho-capitaliste, n'ont qu'à changer de pays. Et tout ira très bien. Bon, les gens qui ne sont pas d'accord ne changent pas de pays, Alain Laurent. Et là, on a des gens qui ne contractent pas, disent-ils, à la Friedman, si j'ose dire, à la anarcho-capitaliste. Mais en vérité, le fait qu'ils restent là signifie qu'ils bénéficient aussi, parce que l'État, ça donne des choses, ça ne fait pas qu'en prendre. Les anarcho-capitalistes ne sont pas toujours très... Enfin, sont-ils un peu naïfs? Voilà, je vais poser la question comme ça. Sont-ils un peu naïfs?
Tout à fait. Il y a une part de rêvasserie fumeuse et totalement déconnectée de la réalité qui peut aussi les caractériser. C'est pas moi qui irai la compte. D'ailleurs, j'en profite pour faire remarquer quelque chose à propos de la situation du libertarianisme aux États-Unis. Moi, depuis toujours, dès qu'ils sont apparus dans les années 60, ils ont présenté systématiquement des candidats aux élections présidentielles aux États-Unis. Et quel a été le succès rencontré par les candidats libertariens, qui pouvaient donc se présenter de toute façon, systématiquement depuis 50 ou 60 ans, 1% des voix. Jamais ils ne se sont demandé pourquoi dans un pays à tradition de forte liberté comme les États-Unis, les libertariens n'ont pas réussi à percer politiquement. C'est-à-dire qu'ils ont totalement négligé ce fait réel que les gens peuvent avoir légitimement besoin de sécurité, de frontières, de nations. Or, il y a un côté, faisons table rase du passé, qui aurait beaucoup plu peut-être à Marx, qui l'entendait de façon différente, et renoncer aux frontières, aux nations, au fait qu'il y a nécessité d'un ordre public, est quelque chose qui a tout à fait pourri les espoirs électoraux des libertariens. Aux récentes élections, lorsque Trump a été élu, le candidat libertarien, il y en a eu un, a eu 0,4% des voix.
Je suis désolée, on arrive au bout. Juste quelques secondes, mais je voulais quand même vous demander, vous qui connaissez si bien Ayn Rand, Mathilde Berger-Perrin, Ayn Rand, elle aurait été d'accord, on ne contracte pas. C'est difficile, hein.
Non, en fait,
pas sûr.
Non, je suis pas sûre parce que là, je vais revenir sur la question que vous me posiez tout à l'heure, qui est une très bonne question. C'est est-ce qu'elle aurait détesté juste les libertariens de gauche? La réponse est non. Elle détestait tous les libertariens à cause du fait que elle ne dit pas qu'il faut arrêter de souscrire ou couper dans la bureaucratie tant qu'on n'a pas adopté une morale commune. Et donc là, en l'occurrence, ces gens-là vivent dans une morale qui est probablement la leur et décident de ne pas souscrire. Mais elle avait souscrit à la sécurité sociale, donc je pense pas qu'elle aurait dit non. Baby, don't let shut you down. She got a funny little face, but her body don't quit it. And every time she come around, she do a wiggle and a wink, but she don't give a shit about anybody else but herself. No, she doesn't care for nobody else. It's just me, 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 me. She's so selfish. Everybody plays a game. She got the style and the class, and she get what she wants. And everybody knows her name. She got the smile and the ass and the power to. Cause she really in it just for herself. No, she doesn't care for nobody else. It's just me, 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 me. She's so selfish. Uh-huh. She's so selfish. And she said,
She's so selfish, elle est tellement égoïste. Chanson de 1979 du groupe originaire de Los Angeles, le groupe de rock The Knack. Évidemment, c'est un clin d'œil à Ayn Rand et à sa théorie de l'égoïsme. Ce n'est qu'un clin d'œil, hein. Il ne faut pas le prendre mal. Je vous remercie beaucoup Mathilde Berger-Perrin et Alain Laurent qui nous ont vraiment beaucoup éclairé sur cette mouvance libertarienne, en particulier américaine, mais sans doute pas seulement. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il parle de la précision. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi faut-il s'exprimer avec précision ? le personnage le plus irritant de l'histoire de la philosophie, celui d'ailleurs qui est resté dans l'histoire de la philosophie parce qu'il était exaspérant, insupportable et irritant au sens le plus physique du mot presque, c'est bien entendu Socrate. Socrate dans les dialogues de Platon. Socrate qui se décrit lui-même comme une torpille, comme celui qui vous injecte un peu d'électricité, qui vous réveille et qui vous énerve, qui vous exaspère. Et pourquoi Socrate est-il exaspérant dans les dialogues de Platon ? Socrate est exaspérant pour une raison précise, et c'est justement parce qu'il demande de la précision. Socrate est celui qui engage le dialogue, non pas forcément pour atteindre la vérité définitive, mais au moins pour atteindre une vérité établie entre les êtres humains à travers une exigence de précision. De ne pas dire n'importe quoi de n'importe quoi, mais de dire quelque chose qui s'adapte à la singularité des objets et qui la respecte, qui permette de ne pas tout confondre. Et c'est cette exigence qui est d'abord une exigence de définition, mais pas seulement de définition en général, mais de définition des choses dans ce qu'elles ont de distinct les unes par rapport aux autres. C'est cette exigence qui caractérise Socrate et ce par quoi peut-être il a inventé la philosophie. Alors il est exaspérant, Socrate, parce que, par exemple, il engage un dialogue avec un personnage, on le sait, le jeune esclave dans le Ménon ou beaucoup d'autres, ou Gorgias, ou Calliclès dans le Gorgias, et il lui dit d'essaye de me définir la vertu. Et le personnage dit « liste des vertus ». Socrate lui dit « je ne t'ai pas dit de me donner des exemples de vertus, mais en quoi sont-elles des vertus ? Et en quoi la vertu va-t-elle se distinguer de ce qui n'est pas elle ? Pourquoi ceci est-il une vertu et ceci ne l'est-il pas ? Est-il, par exemple, son contraire, un vice, ou bien simplement une connaissance, mais pas une manière de régler l'action humaine de façon juste ? Et par exemple, qu'est-ce qui va définir la justice ? C'est la grande question de la République de Platon ou du Gorgias, où Socrate pousse Calliclès, l'interlocuteur qui va résister à cette demande de précision de la manière la plus violente possible, il lui demande de justifier sa définition implicite de la justice par la force. Peut-on aller jusqu'au bout et vraiment définir la justice par la force ? C'est peut-être possible. Il y a des auteurs qui ont prétendu réduire la justice à la force, au droit du plus fort, mais la plupart des philosophes leur ont objecté que la force ne fonde aucun droit puisqu'elle est toujours menacée par une force plus grande et que le droit, c'est au contraire la reconnaissance par les êtres humains d'une légitimité qui va au-delà du pur rapport de force, du pur combat qui la remet constamment en jeu. La justice doit donc être définie par une reconnaissance rationnelle par les êtres humains de ce qui respecte leur singularité et leur égalité dans un espace social dont ils font partie. La justice, c'est d'abord définie par une procédure, par un accord entre les humains et non pas par un pur rapport de force qui n'ouvre qu'à la guerre. Alors on peut définir la guerre, la justice par la guerre, mais on arrivera toujours au contraire à normer la guerre par la justice, du moins faut-il l'espérer. S'exprimer avec précision, c'est donc savoir distinguer dans la confusion du monde. Platon définit le dialecticien comme le boucher qui découpe un poulet selon les bonnes articulations du poulet et pas n'importe comment. Oui, il faut découper le poulet avec précision. Oui, il faut connaître le monde avec précision. Oui, la philosophie comme la science, comme la vie humaine ont besoin de la précision, sinon, tout simplement, ce sera la guerre.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger, avec à la technique Mineta Djawara. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, que je remercie, Armance Bourquin, Chaïma Giboire, Anna Felpin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité!